Voilà, le cours d'aujourd'hui est pour la réussite de Ariel Chaim, de Nor Rachel Bat Gaale, de Adam Avram Ben Ariel et de Eliora Rebecca Bat Rachel. Bonjour à tous et à toutes. Comme je l'ai déjà mentionné, on est en ce moment dans une période qu'on appelle la période du Homer, mais il y a une particularité dans cette période-là, c'est que les 33 premiers jours sont marqués par une forme de deuil en souvenir de la disparition des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. J'ai déjà consacré un cours sur ce sujet, je ne vais pas revenir sur la raison pour laquelle les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts pendant cette période-là, mais ce qui est très important, c'est que finalement ça n'a duré que 33 jours jusqu'au jour qu'on appelle l'Akba Omer, le 33e jour du Omer. Après la mort de ces 24 000 élèves, Rabbi Akiva bien sûr a cherché de toutes ses forces à préparer l'avenir de la Torah parce que, comme on le sait, comme je l'ai déjà souvent mentionné, nos maîtres enseignent et affirment que Rabbi Akiva est la matrice de toute la Torah d'Israël. Et donc, ayant perdu ses élèves, il fallait bien qu'il se préoccupe de chercher ceux qui allaient finalement, parmi ses élèves, ceux qui allaient continuer son chemin et continuer à enseigner la Torah de manière à ce que finalement son enseignement, qui est la matrice de toute la Torah orale, son enseignement continue à être transmis par ses élèves. Le problème est que, comme je viens de le dire, tous ses élèves avaient disparu. Et donc, il est parti à la recherche de nouveaux élèves qui, eux, pourraient être ses héritiers. Et il en a trouvé 5, dont un, Rabbi Shimon Bar Yochai, le grand Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui a commencé à dévoiler les secrets de la Torah. Et le livre, l'œuvre majeure qu'il nous a laissé, c'est bien sûr le Zohar. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que des années après, Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même va quitter ce monde à l'Akba Omer, le 33e jour du Omer, c'est-à-dire que l'épidémie qui avait frappé les 24 000 élèves de Rabbi Akiva s'était arrêté des années avant le 33e jour du Homer, et des années après, l'un des plus célèbres parmi les 5, l'un des plus célèbres élèves de Rabbi Akiva quittera lui aussi ce monde le même jour que s'était arrêtée l'épidémie. Alors évidemment, nos maîtres font un lien entre les deux. On sait très bien que, je l'ai déjà expliqué aussi, que dans notre tradition, le jour où un juste quitte ce monde, ce n'est pas une perte pour le monde, bien au contraire, c'est un gain, en ce sens que toute la lumière, toute la sagesse qu'il a accumulée durant sa vie, cette sagesse ne disparaît pas avec lui, au contraire, elle va rester dans ce monde et elle va s'agrandir d'année en année. Ce que disent nos maîtres, qu'un juste est encore plus lumineux après sa mort que de son vivant. Pourquoi ? Parce que de son vivant, même si c'est quelqu'un d'immense, malgré tout, sa lumière est limitée à l'intérieur de son corps. Mais lorsque cette lumière, son âme, quitte le corps, à ce moment-là, elle devient beaucoup, beaucoup plus illimitée, même si elle a encore une certaine enveloppe dans le monde d'en haut, mais cette enveloppe est infiniment plus large que celle formée par le corps, et donc sa lumière peut s'étendre, peut se diffuser beaucoup, beaucoup plus encore, et surtout dans notre monde, où justement, le jour où il quitte le monde, notre monde, est le jour où sa lumière va commencer à se diffuser dans notre monde de plus en plus fort. Et chaque jour anniversaire de sa mort, donc en ce qui concerne Rabbi Shimon Bar Yochai, le 33e jour du Homer, chaque jour anniversaire de sa mort, donc chaque année, cette lumière se diffuse d'une manière encore beaucoup, beaucoup plus forte et on va en progressant d'année en année. J'avais donné dans un des cours récents un exemple, à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, il n'avait même pas 10 élèves, même pas 10 élèves, parce que sa lumière était tellement mystérieuse, tellement cachée, c'était le tout début des dévoilements des secrets de la Torah, auxquels le peuple juif dans son ensemble n'était pas encore habitué. Je vais expliquer bien sûr pourquoi. Et donc il n'avait que 9 élèves. Et à la fin de sa vie, avant qu'il quitte lui-même ce monde, il avait déjà perdu 3 élèves, il n'était que 7. Un jour, il ira trouver son maître Rabbi Akiva en pleurant et lui demander « Mais comment c'est possible qu'une telle lumière n'ait que si peu d'élèves ?» Et son maître lui répondit « Sache que ça doit te suffire que le maître du monde et moi, on sait qui tu es. » Ça veut dire « Il n'y a que le maître du monde et moi, ton maître, qui savons qui tu es, parce que ta lumière est tellement immense que pour l'instant, le monde, la génération n'a pas encore les réceptacles pour pouvoir recevoir une telle lumière. Donc, ne t'étonne pas du fait que tu as si peu d'élèves. » Aujourd'hui, à la Hiloula, ça veut dire au jour anniversaire de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a presque 1 million de personnes ici en Israël qui vont se recueillir sur sa tombe. Et le Zohar est diffusé et traduit dans des dizaines de langues dans le monde entier. Je ne dis pas qu'il est compris dans le monde entier parce que c'est évident qu'il est falsifié et complètement abîmé, parce que sans être formé et préparé à comprendre le Zohar, personne ne peut le comprendre, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar est aujourd'hui quelque chose qui est connu par des millions de personnes, ne serait-ce que dans notre peuple. Et donc, avec les années, on voit que de 9, 7 élèves, il est passé à des millions de personnes qui le connaissent et le reconnaissent. C'est bien la preuve comme quoi le juste, lorsque physiquement, corporellement, quitte le monde, mais sa lumière, elle, ne cesse de grandir dans ce monde. Donc, en tous les cas, je reviens à ce que j'ai expliqué. L'épidémie qui avait tué les 24 000 élèves de Rabbi Akiva s'arrête le 33e jour du Homer, et des années plus tard, Rabbi Shimon Bar Yochai va quitter ce monde le 33e jour du Homer, c'est-à-dire que la lumière des secrets de la Torah va commencer à descendre et se diffuser de plus en plus à partir de ce jour-là, le 33e jour du Homer. Cette lumière va s'imprégner dans notre monde et se diffuser de plus en plus fort jusqu'à la délivrance finale. Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même dira que la véritable profondeur du Zohar n'aurait été comprise qu'à son époque, lui et ses quelques élèves, et cette lumière sera à nouveau comprise et cette fois-ci diffusée dans le monde entier à l'époque du Mashiach. Ça veut dire qu'entre l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai et le Mashiach, même s'il y a de plus en plus de personnes qui reconnaissent, qui connaissent, qui étudient le Zohar, malgré tout la véritable compréhension profonde, le véritable développement de cette lumière qui amènera la délivrance du monde, Rabbi Shimon Bar Yochai le dit lui-même dans l'introduction du Zohar, que lorsque la lumière du Zohar se diffusera et sera véritablement intégrée et comprise dans le monde, à ce moment-là viendra la délivrance. Et qui va faire cela? Le Mashiach lui-même. Et donc, c'est une œuvre de laquelle finalement dépend la délivrance finale, telle que Rabbi Shimon Bar Yochai l'explique lui-même. Et donc tout a commencé, encore une fois, le 33e jour du Homer, jour qui, des années auparavant, avait été le jour où l'épidémie s'était arrêtée. Nos maîtres, bien sûr, font un lien et ils disent que justement, parce que le maître du monde savait que le jour, le 33e jour du Homer, serait le jour où la lumière des secrets de la Torah commencerait à se diffuser véritablement dans le monde, c'est la raison pour laquelle des années auparavant, puisque le maître du monde évidemment est au-dessus de l'espace-temps, c'est la raison pour laquelle il a fait en sorte que cette épidémie s'arrête le jour où plus tard la lumière du Zohar commencera à se diffuser dans le monde. Quel est le lien entre ces deux histoires qui apparemment n'ont pas de lien l'une avec l'autre? L'épidémie s'arrête le 33e jour du Homer, Rabbi Shimon Bar Yochai quitte ce monde le 33e jour du Homer, quel est le lien? Eh bien, le lien est absolument évident. Cela veut nous faire comprendre que justement, comme je l'ai toujours expliqué, que les grands dévoilements de lumière se font toujours après une grande période d'obscurité. Parce que l'obscurité elle-même cache une lumière inimaginable. Pendant 33 jours, tous les élèves de Rabbi Akiva, 24 000 en 33 jours seulement, disparaissent. Nos maîtres expliquent que ça a été une période d'obscurité plus terrible encore que l'obscurité qui régnait au premier jour de la création, quand il est dit dans la Torah que l'obscurité recouvrait toute la face de l'univers jusqu'à ce que Dieu dise que la lumière soit. Et l'obscurité qui a touché le monde juif à ce moment-là était plus grande encore. Vous imaginez, c'était, on pourrait dire toute la survie de la Torah qui était remise en cause. Parce que si Rabbi Akiva n'avait pas retrouvé 5 élèves qui, d'une certaine manière, étaient à eux 5 aussi forts, si pas plus, que les 24 000 qui étaient morts, si Rabbi Akiva ne les avait pas trouvés, il n'y avait plus rien. La Torah se serait arrêtée. Donc, pendant ces 33 jours, tout le monde juif était dans une situation où il s'est dit « Mais si la Torah s'arrête, on va tous disparaître. » Puisque le peuple juif ne tient que grâce à la lumière de la Torah, qui l'accompagne de génération en génération, comme on le sait. Et donc, parce que la lumière de la Torah est une lumière qui est surnaturelle, et parce que nous avons en nous cette lumière, c'est pour ça que nous arrivons à défier toutes les lois de la nature. Et c'est la raison pour laquelle, en dépit de toute la logique dispersée pendant des millénaires au milieu des nations, poursuivie, massacrée, persécutée, on est revenu sur notre terre et on est là plus que jamais. C'est quelque chose qui ne s'est jamais produit dans l'histoire. Jamais. Dans ce domaine-là, on est vraiment quelque chose d'unique. Mais grâce à qui? Pas grâce à nous en tant qu'hommes. Grâce à cette lumière surnaturelle qui est en nous, qui est la Torah d'Israël, qui est la lumière d'Hachem. Et comme Hachem est au-dessus de la nature, celui qui a cette lumière, le peuple qui a cette lumière en lui, forcément, il lui est aussi au-dessus de la nature. Et donc, je reviens à ce que j'explique. Pendant ces 33 jours où mouraient des milliers et des milliers d'élèves, Rabbi Akiva et tout le peuple juif a commencé à se dire « ça y est, c'est la fin ». N'oublions pas, pour mieux comprendre le contexte, qu'on était au tout début du dernier exil qui dure depuis 2000 ans. Le deuxième temple avait déjà été détruit par les Romains et il y avait des décrets tous les jours de pire en pire. L'interdiction d'étudier la Torah, l'interdiction de pratiquer les mitzvot, les juifs étaient poursuivis partout en Israël, étaient exécutés, comme le Talmud le raconte, les Romains avaient donné un ordre que chaque non-juif qui se trouvait en Israël, qui tuait un juif, recevait une récompense. C'était tous les jours des milliers de juifs qui disparaissaient. Et donc, en plus, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui meurent, et donc, le monde juif se pose la question, si on n'a plus la Torah avec nous, c'est évident qu'on va disparaître, surtout avec tout ce qu'on est en train de nous faire. Et donc c'est une période d'obscurité terrible. Mais en vérité, cette période d'obscurité, comme je l'explique toujours, et là on en a une nouvelle preuve, cache toujours une lumière qui est, on pourrait dire, aussi puissante que l'obscurité est puissante. Plus l'obscurité est puissante et plus la lumière que cache l'obscurité est puissante. C'est la raison pour laquelle cette épidémie qui tue les 24 000 élèves de Rabbi Akiva se termine le jour où va se dévoiler dans le monde la lumière de Rabbi Shimon Bar Yochai, comme pour nous dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité dans ce monde pour atteindre une très 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 forte lumière. Tu es malheureusement ou heureusement obligé de passer par une très très grande obscurité. Comme je l'ai dit déjà des milliers de fois, en 45 on ouvre les portes de Auschwitz et en 48 on danse dans les rues de Tel Aviv pour célébrer la naissance, la renaissance de l'État d'Israël. Et combien d'exemples on a au niveau de notre histoire en tant que peuple juif, mais cette notion est vraie même sur le plan individuel. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais, 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 jamais se décourager, tomber dans la tristesse ou dans le désespoir, dans un moment d'obscurité très fort, parce qu'on doit avoir la certitude que cette obscurité n'est qu'un voile qui cache une lumière inimaginable. Et si on a cette émouna, si on a cette confiance absolue dans le fait que l'obscurité n'est qu'un voile qui permet de nous préparer à recevoir une lumière inimaginable, alors finalement on finit par la recevoir. Et c'est justement ce qui s'est passé avec Rabbi Akiva. Bien sûr, j'ai expliqué que le monde juif était dans une situation de désarroi inimaginable. Mais bien sûr que Rabbi Akiva n'est pas sombré dans le désespoir. Il a compris le message, que cette chose absolument folle qui se passait, en 33 jours, de perdre tous ses élèves qu'il avait construits pendant des années et des années, tout disparaît en 33 jours. Rabbi Akiva, qui était bien sûr non seulement un vrai maître, mais le plus grand de tous les maîtres, savait que finalement, une fois que le voile de l'obscurité serait déchiré, une lumière inimaginable allait se dévoiler. Et c'est ce qui s'est passé avec son élève, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il faut comprendre que Rabbi Shimon Bar Yochai est la lumière de la délivrance finale. Comme il le dit lui-même, comme je l'ai expliqué dans le Zohar, et comme il l'explique dans de très 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 nombreux textes, que toute la lumière que le Mashiach diffusera dans le monde et arrivera à réparer le monde, cette lumière s'enracinera dans les secrets du Zohar. Donc, je vais maintenant parler un petit peu du personnage de Rabbi Shimon Bar Yochai, puisque comme on est justement dans cette période-là, et que très prochainement, il y aura le jour de l'Akba Omer, donc le jour, entre parenthèses, du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais qui en vérité n'est qu'un décès qu'à nos yeux, puisque comme j'ai expliqué, la lumière quitte le corps pour mieux revenir avec beaucoup plus de puissance dans notre monde, comme je l'ai expliqué. Comme on est justement dans cette période-là, j'ai choisi un texte dans le Zohar qu'on va étudier, et puis d'autres aussi qu'on va étudier au fur et à mesure. On va commencer aujourd'hui, on continuera demain. Mais d'abord, je voudrais faire une introduction. Il faut savoir que Rabbi Shimon Bar Yochai était un véritable guerrier, comme je l'ai expliqué il y a fort longtemps. Et comme on va le voir au tout début du texte que j'ai choisi, ce texte du Zohar, il y avait, puisqu'on était, comme je l'expliquais, en pleine période de décrets terribles contre le peuple juif au tout début de l'exil, et le dernier exil, les Romains étaient d'une cruauté inimaginable à l'égard de tous les peuples, et particulièrement du peuple juif qui, dans sa nature, est toujours très rebelle à se plier à n'importe quel système qui existe dans le monde. Et donc la cruauté à l'égard des Juifs était pire encore qu'à l'égard des autres peuples. Et donc il y avait une grande discussion à l'intérieur du monde rabbinique, des grands maîtres d'Israël. Qu'est-ce qu'on fait? On baisse un petit peu la tête pour alléger les souffrances ou on continue à se révolter et les souffrances ne cessent d'augmenter? Et donc il y avait une discussion parmi les grands maîtres authentiques d'Israël. Et l'un des plus grands avait dit qu'il fallait, en tout cas de l'extérieur, montrer une certaine soumission de manière à alléger, voire même peut-être même annuler tous les décrets inimaginables qui tombaient sur le peuple juif. Le seul qui a refusé et qui a dit non, on continue à se battre, même si ça va amener encore beaucoup plus de souffrance sur notre peuple, était précisément Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai n'était pas du tout, comme je l'ai souvent expliqué, un mystique spirituel dans une bulle illusoire qui plane au-dessus de la réalité, comme la plupart des religieux. Non, c'était un véritable guerrier, un homme qui était prêt à mener Israël dans la révolte, dans la lutte contre Rome. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que sa prise de position contre Rome a été entendue par les Romains et sa tête a été mise à prix. Et c'est comme ça que finalement, il s'est enfui, il s'est caché pendant 13 ans dans une grotte, lui et son fils. Personne ne savait où il était. Les maîtres d'Israël savaient qu'il était caché quelque part, mais personne ne savait où il était. Et c'est précisément pendant cette période-là que, comme on va le voir, il avait tous les jours la visite de Eliyahu Hanavi. On va l'expliquer. Et c'est comme ça que finalement, la lumière des secrets de la Torah a commencé à descendre dans le monde, à travers lui, puis a été écrit le Zohar, et cette lumière ne cesse d'augmenter de génération en génération jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les autres étapes qu'il y a eu, le Ari HaKadosh, le Baal Shem Tov, etc. Jusqu'au Mashiach qui lui dévoilera ses secrets tels que personne ne l'avait fait encore avant lui. Mais je veux rajouter aussi une autre notion. Pourquoi c'est précisément à cette époque-là que la lumière de la délivrance finale commence à scintiller dans le monde, même si au commencement c'était encore tellement, tellement, tellement fin que, comme je l'ai expliqué, Rabbi Shimon Bar Yochai n'avait que 9 élèves et après que 7. Donc sa lumière n'était connue que par très peu de monde, mais en tous les cas comme une graine qu'on plante dans le sol. Et finalement, cette graine, au début, ce n'est qu'une toute petite graine. Mais avec le temps, elle donnera un arbre porteur de centaines de fruits qui eux-mêmes pourront être replantés et donner de nouveaux arbres et de nouveaux fruits. Ça veut dire qu'à partir d'une graine, tu peux arriver à des milliers et des milliers et des milliers d'arbres fruitiers. Puisque la graine va donner un arbre, tu peux prendre des fruits et replanter la graine qui vont donner d'autres arbres. Et ceci à l'infini. Donc ça commence toujours avec presque rien. Mais pourquoi ça a commencé à cette époque-là justement? Parce que c'était effectivement, comme je l'expliquais, une période, à part le fait que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts, c'était en soi pour le peuple juif une période terrible. Parce que c'était le début de l'exil, du dernier exil. Et comme nos maîtres nous disent, Kol Atralot Kashot, tous les débuts sont très très difficiles. Les Romains agissaient avec une cruauté inimaginable à l'égard du peuple juif. Et donc il y avait une obscurité terrible. Et comme toujours, comme je viens de l'expliquer, c'est toujours au moment où l'obscurité est terrible que se cache une lumière qui est aussi puissante, si pas plus que l'obscurité elle-même. Ça, c'est le principe fondamental de l'histoire de notre peuple et d'une certaine manière de l'histoire de l'humanité tout entière. Comme je l'ai toujours expliqué en blaguant, si les antisémites avaient compris ce principe, ils décideraient de nous laisser tranquilles pendant un siècle, et c'est comme ça qu'on disparaîtrait. Parce que quand on n'est plus soumis à des épreuves, on ne reçoit plus de lumière, et on disparaît. Finalement, le plus grand génocide que les antisémites pourraient faire à l'égard du peuple juif, c'est de nous ficher la paix pendant des siècles. Et je vous garantis qu'on disparaîtrait tout seul. Mais comme, par définition, un antisémite est un idiot, même si on lui dit ce qu'il doit faire, il ne le fera pas. Et donc, en nous faisant souffrir, il nous amène, sans le savoir, une lumière inimaginable qui est cachée dans l'obscurité qu'ils font tomber sur nous. Et c'est grâce à cette lumière qui est cachée dans l'obscurité qu'ils font tomber sur nous qu'on est arrivé à traverser l'histoire. Et un jour, quand ce secret va être révélé, tous les antisémites de l'histoire se tireront une balle dans la tête en se disant, mais quels imbéciles on a été, on a tout fait pour permettre au peuple juif de continuer à exister, justement en le faisant souffrir. Parce que sinon, ça fait longtemps qu'on aurait disparu. Quand un homme vit métro, boulot, dodo, ben, il disparaît. Il n'y a que l'adversité qui nous permet de chercher en nous des forces inimaginables qui nous permettent de devenir presque surnaturels. Et surtout, et essentiellement, si on a la Torah avec soi. Donc on va commencer aujourd'hui ce texte qu'on continuera demain. Et ce texte commence justement avec ce que j'ai expliqué, ce qui s'est passé avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, alors ce texte-là, pour ceux qui veulent le voir dans le Zohar, se trouve dans le Zohar Chadash. Je ne traduis pas puisque ça ne s'adresse forcément qu'à des gens qui comprennent bien l'hébreu. Zohar Chadash, Parshat Kitavo, la page Ein Gimel. Donc, Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Shimon le fils de Yochai, son père s'appelait Yochai, Azillé, a dû partir vers Arak le Midbara d'Elod et s'est caché. Il a fui et il est arrivé dans l'endroit, une région dans le Galil qui s'appelait à cette époque-là la région de Lod. Veidganiz Bechad Meharta, il s'est caché dans une grotte. J'ai déjà eu l'occasion avec mes élèves d'aller dans cette grotte. Aujourd'hui, c'est un village druze qui s'est construit autour de cet endroit. Et donc, on a eu l'occasion avec mes élèves d'aller. On ne peut pas rentrer dans la grotte, elle est fermée. Mais on s'est retrouvé devant la grotte où était caché Rabbi Shimon Bar Yochai, en Haute-Galilée, encore une fois dans un village druze aujourd'hui. Veidganiz Bechad Meharta. Et il s'est caché donc dans une grotte où Verabi Elazar Béré, lui et Rabbi Elazar, son fils. Il est arrivé à prendre son fils avec lui et ils se sont enfuis tous les deux. Même son épouse, pendant 13 ans, ne savait pas où était son mari et ni son fils. Itraresh Lumnissa. Maintenant, ils sont entrés dans une grotte. Très bien, mais comment tu vas vivre pendant 13 ans dans une grotte? Alors, ils ont bénéficié d'un miracle. Venafak le Uchad Charuba. Un arbre a poussé dans la grotte, un caroubier. C'est-à-dire, pendant 13 ans, ils mangeaient des fruits du caroubier. Vechad Mayana. Et une source d'eau aussi des Mayas est apparue dans la grotte. Achlemeu Charuba. Et ils ont mangé donc pendant des années uniquement de ces fruits du caroubier, c'est d'ailleurs pas des fruits très riches et très bons. Veshatan Menun Mayan, et ils ont bu de l'eau de cette source qui était apparue dans la grotte. Ave Eliaou Zachor Letov Atelun Bechol Yoma Trezimne. Eliaou, on va en parler tout de suite, le prophète Eliaou venait leur rendre visite tous les jours, deux fois par jour. Veoliflun, et c'est avec lui qu'ils ont appris les secrets de la Torah et ont commencé à dévoiler la lumière du Zohar. Veloyada inish ve'u, et personne ne savait où ils étaient. Parlons un petit peu d'Eliaou. Vous savez que dans notre tradition, Eliaou, donc qui au départ, à l'époque biblique, est le prophète Eliaou, celui qui s'est battu contre les idoles à l'époque du roi Achav, et qui était poursuivi par, entre autres, l'épouse du roi Achav qui s'appelait Isabel, et donc une vie très très difficile, constamment poursuivie, sa tête était constamment mise à mort, et finalement lui-même est mort d'une manière très, on pourrait dire, surnaturelle. On connaît le texte biblique, il avait un élève qui va continuer son chemin après, le prophète Elisha. Et le prophète Elisha, au moment où son maître Eliaou est mort, il l'a vu monter, il n'a pas été enterré, il est monté avec son corps vers le ciel, et c'est comme ça qu'il a disparu des yeux de son élève. Il n'a jamais été enterré, puisque encore une fois, d'après la tradition biblique, telle que c'est marqué dans la Bible, il est monté corps et âme vers le ciel. Alors il y a bien sûr des explications inimaginables, pourquoi il est mort de cette manière. Pourquoi c'est lui, après, qui dans toute notre tradition, de génération en génération, c'est lui qui se dévoile au très 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 grand juste. Il s'est dévoilé au Ari HaKadosh, il s'est dévoilé à Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est dévoilé au Baal Shem Tov, et à quantité d'autres. Il revient dans chaque génération, et il se dévoile au grand juste, 1, 2, 3 dans chaque génération, et il leur dévoile, par rapport au contexte, par rapport à l'homme, par rapport au réceptacle, bien sûr, et il leur dévoile les secrets de la Torah. Et tout ça dans le but de préparer la délivrance finale. Alors, il y a tellement, tellement, tellement de choses à dire à ce sujet-là que je ne pourrais pas tout dire, mais rappelons-nous que dans notre tradition, Eliyahu Hanavi est celui qui vient annoncer le Mashiach. Ça veut dire quoi, il vient l'annoncer? Il ne faut pas le prendre à la lettre. Il ne va pas venir avec une trompette et faire tout, 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 le Messie arrive. Non. Il vient l'annoncer, c'est-à-dire qu'il vient le préparer. Puisque la délivrance finale dépend entre autres du dévoilement des secrets profonds de la Torah qui vont arriver à convaincre la grande majorité de l'humanité de la véritable existence et de la véritable compréhension et de la véritable identité de Dieu, parce que son identité a été falsifiée par toutes les religions jusqu'à aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle l'un des versets les plus célèbres qui parle de la délivrance finale nous dit en ce jour, son nom sera un, c'est-à-dire son identité sera une, son identité ne sera plus falsifiée, morcelée par toutes les religions qui ont traversé l'histoire, mais il y aura une identité qui sera reconnue par toutes les nations, et cela dépend du dévoilement des secrets profonds de la Torah qui vont dévoiler la véritable identité du maître du monde. Et quand on dit que Eliyahu vient annoncer le Mashiach, ça veut dire que c'est lui qui vient préparer sa venue. C'est la raison pour laquelle dans chaque génération, il revient pour enseigner la Torah authentique, profonde, cachée à ceux qui le méritent dans chaque génération, de manière à ce que dans chaque génération, cette lumière se transmet jusqu'à la vue du Mashiach. Alors, pourquoi lui ? Et d'abord, une autre question, ça veut dire quoi il revient ? Alors, je m'excuse de vous dire, vous me connaissez, je ne suis pas un mystique qui vit dans les nuages, je suis quelqu'un de très concret, mais même si je suis quelqu'un de très concret, il y a des choses surnaturelles auxquelles j'adhère entièrement et que je suis prêt à transmettre. On sait très bien que la mort n'existe pas, la mort est un pur fantasme, parce que nous, quand on voit quelqu'un qui meurt, en vérité, on voit le corps s'arrêter de bouger. Mais le corps n'est que l'enveloppe. Et où est l'âme? Évidemment que l'âme est toujours là. Et on sait dans notre tradition, je l'ai déjà enseigné, que l'âme peut revenir dans ce monde, et pas forcément sous la forme d'un corps, et se dévoiler à des justes qui ont une sensibilité spirituelle suffisamment élevé pour pouvoir percevoir une âme. On a dans le Talmud, dans le Zohar, des milliers d'histoires qui nous disent que de très très grands maîtres percevaient une âme d'un très grand juste qui revenait dans ce monde et qui se manifestait à ces grands grands justes. Alors bien sûr, il s'agit d'hommes qui ont une sensibilité spirituelle d'un niveau qu'on ne peut même pas imaginer. Mais par exemple, dans notre tradition, et j'y adhère et j'y crois à 2 milliards de pourcents, on nous dit que le Baal Shem Tov, pendant des années, avait pour maître, qui lui enseignait tous les jours la Torah, le fameux prophète Ahia Ashiloni, qui a vécu, qui vivait à l'époque du roi Salomon et après. Ça veut dire que des millénaires après, comment peut-il être le maître du Baal Shem Tov ? Parce que le Baal Shem Tov avait un niveau spirituel qui était tellement élevé qu'il a été capable de se connecter à cette âme qui revenait dans ce monde et avec laquelle il a appris la Torah pendant des années, ce qui a fait de lui le Baal Shem Tov. Le Ari HaKadosh lui-même avait des dévoilements d'Eliyahu Hanavi pendant des années. Rabbi Chaim Vital, l'élève du Arizal, le Arizal est mort très jeune, à l'âge de 38 ans, mais Rabbi Chaim Vital lui-même enseigne et a écrit un livre qu'on peut lire, qu'on peut voir, où il dit que pendant des années, tous les jours, l'âme de son maître revenait chez lui et ensemble, ils continuaient à étudier la Torah. Parce que l'âme est là. Le corps n'est qu'une enveloppe. Comme ma chemise n'est qu'une enveloppe de mon corps qui n'est lui-même que l'enveloppe de mon âme. Alors évidemment, des gens comme vous et moi, on ne peut pas capter une âme. Mais Rabbi Chaim Vital, oui. Le Baal Shem Tov, oui. Rabbi Shimon Bar Yochai, oui. Alors maintenant, cette âme revenait, elle descendait dans la grotte, et ils étudiaient pendant 13 ans, tous les jours, deux fois par jour, ils étudiaient la Torah. Et Eliyahu Hanavi est d'une certaine manière celui qui est préposé, celui qui a été nommé par Dieu pour transmettre les secrets puissants, profonds, cachés de la Torah. Pourquoi lui ? Alors il y a bien sûr une infinité de raisons. D'abord, il faut se rappeler ce que nous enseignent nos maîtres, que Eliyahu en a vu lui-même était le Gilgul, la réincarnation de Pinchas. Pinchas à l'époque de Moshe, qui a tué Zimri, qui se débauchait avec une fille de Moab et qui avait entraîné avec lui des milliers d'autres juifs à se débaucher avec toutes les prostituées que Moab avait introduit dans le peuple juif afin de faire tomber le peuple juif, effectivement 24 000 morts à cause de cette faute-là. Mais Pinchas est celui qui a mis fin à ce qui était en train de se passer en tuant finalement l'un des leaders de cette débauche qui était Zimri, le chef de la tribu de Shimon. Et donc Pinchas était un véritable guerrier qui a compris qu'il y a des fois dans la vie où pour arrêter quelque chose de très très grave, tu n'as pas d'autre choix que d'agir avec violence. Et il va se réincarner dans Eliyahu. Eliyahu était un guerrier lui aussi. Il s'est battu, a mis sa vie en danger véritablement pour se battre contre l'idolâtrie. L'idolâtrie qui était arrivée à des niveaux incroyables à l'époque du roi Achav, qui était l'un des rois des 10 tribus après le schisme entre la tribu de Yehuda et les 10 tribus. Sa tête avait été mise à prix par surtout l'épouse de Achav. Achav était un peu plus conciliant parce qu'il avait un respect pour Eliyahu qui était comme un très grand prophète, mais Isabelle, elle le cherchait partout pour l'assassiner. D'ailleurs, Isabelle avait fait tuer des centaines de prophètes à l'époque d'Eliyahu. Eliyahu était arrivé à en cacher 500, 250 dans une grotte et 250 dans une autre grotte. Mais Isabelle en avait fait massacrer énormément. Tout celui qui n'était pas idolâtre était immédiatement massacré par les soldats d'Isabelle. On a cette histoire fabuleuse que Eliyahu est monté sur le mont Carmel à Haïfa et il s'est opposé à tous les prêtres d'une des idoles qu'on appelait Baal. Et il est arrivé à montrer que toutes leurs idoles étaient fausses, vous connaissez l'histoire, et que seul le Dieu d'Israël était le vrai Dieu. Quand le peuple qui était réuni a vu ça, ils sont tous montés sur la montagne et ont tué tous les prêtres de Baal. Quand Isabelle a entendu ça, elle a encore une fois poursuivi Eliyahu. Donc c'était un véritable guerrier Eliyahu, qui se mettait constamment en danger pour sauver son peuple. Quel est le message qu'on comprend de là, mes amis? Un message fabuleux, que je ne cesse de répéter, qui est peut-être le message le plus important de ma vie. Chez nous, la mystique n'existe pas. Chez nous, la religion n'existe pas. Seul un vrai guerrier a le mérite de comprendre véritablement la Torah. Quelqu'un qui se bat pour son peuple, quelqu'un qui se met en danger, quelqu'un qui se bat, oui, réellement, comme Pinchas, il a pris une lance et il a tué Zimri. Après, il est revenu dans le personnage d'Eliyahu, qui se battait véritablement pour sauver son peuple de l'idolâtrie, en sachant qu'il mettait sa vie en danger tous les jours, qu'il était poursuivi, qu'il devait faire attention. Quand il s'endormait le soir, il changeait constamment de... Tous les soirs, il allait dormir ailleurs, parce qu'il savait qu'il pouvait se faire assassiner pendant la nuit. C'était un véritable guerrier. Seul un guerrier peut mériter de comprendre profondément la Torah. Vous comprenez ce que je dis? Et malheureusement, ce message, qui le comprend aujourd'hui? On s'imagine que quelqu'un, plus il va rester dans sa bulle spirituelle, plus il va prier, plus il va étudier, complètement déconnecté de ce monde, et plus il va atteindre des hauts niveaux. Oui, des hauts niveaux dans l'illusion et le fantasme, ça c'est sûr, mais pas dans la vraie Torah. Si tu n'es pas un homme de terrain, tu n'atteindras jamais la vraie Torah. Jamais. Maintenant, vous comprenez, mes amis, pourquoi la Torah nous transmet cette image que quand il est mort, il est monté corps et âme en même temps. Parce que Eliyahu était un homme authentique. Un homme qui vivait autant au niveau de son corps qu'au niveau de son âme. Et il a tellement purifié son corps qu'il a mérité que son corps ne se sépare pas de son âme. C'est ça le message fabuleux. Ça, c'est un vrai juif, un homme authentique, qui vit autant avec son corps pour se battre contre le mal qu'il vit avec son âme. Et c'est pour ça que le maître du monde en a fait celui qui est préposé à recevoir et à transmettre les secrets de la Torah. Seul un vrai guerrier peut comprendre la Torah profondément. Le plus grand exemple, le roi David. Le roi David lui-même, ce n'était pas un suprême guerrier. Et c'était un homme qui connaissait la Torah comme personne ne l'a jamais connu, avant et après lui. Maintenant, nos maîtres nous disent que Elio Anavi se promenait toujours avec un habit de peau de bête sur lui. Et comme ça, on le reconnaissait de loin. Ah, nous, on imagine un prophète, une sorte, je ne sais pas moi, de, avec une petite auréole sur la tête. Aimez-vous les uns les autres, Woodstock? Non. Il avait une peau de bête sur lui. Qu'est-ce qu'il voulait nous montrer? Qu'il était capable de se servir de son animalité pour se battre contre le mal. Comme il y a longtemps, j'enseignais dans le Tanya, que le Balatanya nous explique qu'on a tous un effet Shabéhémi, on a tous une âme animale. Mais cette âme animale, on doit la purifier pour s'en servir, pour se battre contre le mal, et pas uniquement pour jouir de ce monde. Et lui, il portait cette peau de bête pour bien nous faire comprendre que lui était arrivé à transformer toute son animalité comme une arme contre le mal. Et là encore, le message est fabuleux. Les mystiques, les spirituels, d'accord, n'auront jamais, 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 jamais la moindre compréhension de la Torah. Ils vivent dans l'illusion et sont capables de faire croire à tous les moutons qui les suivent qu'eux, ce sont des grands dans la Torah. Mais non, n'est un grand dans la Torah que quelqu'un qui se bat, Pinchas, Eliyahu. Et maintenant, vous comprenez pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce que j'ai expliqué? Avant de se cacher dans la grotte, il était le seul des maîtres d'Israël à avoir dit que malgré toutes les souffrances que traversait Israël, il fallait continuer à se battre contre les Romains. Malgré le prix terrible qu'Israël payait chaque jour. Parce que lui aussi était un guerrier, il a mérité de recevoir les plus grands secrets de la Torah qui sont devenus le Zohar. Et donc on comprend maintenant le lien entre Eliyahu Hanavi qui venait donc tous les jours, deux fois par jour, révéler les secrets de la Torah à Rabbi Shimon Bar Yochai. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, je continue demain ce texte-là. Et la leçon qu'on tire de là est encore une fois cette leçon que je transmets depuis des décennies. D'accord ? Rien n'est plus dangereux que la religion. La religion fait de nous des êtres qui vivent dans l'illusion et le fantasme. La Torah, c'est tout le contraire. La Torah nous apprend à nous engager, à nous investir, à prendre des risques, à nous battre concrètement dans ce monde pour anéantir le mal. Et seulement ceux qui suivent le vrai chemin de la Torah méritent de comprendre la Torah à des niveaux d'authenticité et de véracité que personne ne peut atteindre. Et plus tu t'engages, comme Pinchas s'est engagé, comme Eliyahu s'est engagé, comme Rabbi Shimon s'est engagé, plus tu t'engages dans le combat contre le mal, et plus tu mérites une âme illuminée d'une lumière qu'on ne peut même pas imaginer. À tous et à toutes, une très 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 bonne journée.